les chantons et crions la victoire. Christ est au fort, car Dieu a gagné le combat. Et lui, libérer son peuple, sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'après Dieu, nous ferons des espoirs. Car c'est lui, le qui est par le même, lui chantons.
Nous voulons croire. Et nous verrons ta gloire, ta présence, ta grâce. Alors que nous ouvrons le Saint-Livre, ta parole, que tu nous as laissée pour que nous puissions marcher dans la lumière et dans la vérité. Ouvre pour nous le Saint-Livre. Fais-nous comprendre son message pour chacun d'entre nous. Que nous n'en ayons pas une incompréhension intellectuelle seulement, mais une compréhension qui vienne du cœur, qui transforme nos cœurs. Garde-nous d'être habitués à écouter ta parole. Nous voulons l'écouter comme une parole d'amour qui vient de toi, comme une parole de vérité qui nous libère et une parole d'espérance dans ce monde troublé. Ouvre notre esprit, Seigneur, car sans le ministère du Saint-Esprit, nous ne pouvons comprendre ta parole. Et je compte une fois de plus sur le ministère du Saint-Esprit pour recevoir ce que tu veux me donner pour tes enfants, Seigneur. Je compte uniquement sur le ministère du Saint-Esprit. Que cette onction sainte soit sur celui qui parle et sur ceux qui écoutent. Et que nos vies soient changées, car nous voulons obéir à ta parole, faire ta volonté, changer à ton image. Béni sois-tu éternellement. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Sa présence est là. Et je suis persuadé que nous avons déjà été réconfortés par sa présence, n'est-ce pas vrai? Alléluia. Une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Combien cela est une réalité, que son nom soit béni. Nous avons besoin de sa présence, mais nous avons aussi besoin de sa parole. Sans sa parole, nous sommes perdus. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie spirituelle. Il n'y a pas de vérité spirituelle. Il n'y a pas de vie changée sans la parole de Dieu. Et il n'y a pas aussi de connaissance réelle de sa personne. C'est pourquoi il est important de méditer continuellement sa parole. Et ce matin, nous allons voir quelles sont les richesses spirituel d'un chrétien. Lorsque nous nous repentons de nos péchés et que nous donnons notre cœur au Seigneur et que nous l'acceptons comme notre sauveur personnel, beaucoup de choses se passent. Sans nous en rendre compte, il y a tant de choses qui se passent lorsque Jésus vient en nous. Il est le roi. Et lorsqu'un roi vient dans un lieu, il ne vient jamais les mains vides, n'est-ce pas vrai? Alléluia! Et quand il entre dans notre cœur, il vient avec les mains pleines de bénédictions. Et ce matin, je vais vous donner seulement 7 bénédictions, il y en a plus encore. Mais 7 bénédictions que nous possédons en Christ. 7 bénédictions, 7 richesses, 7 cadeaux que nous recevons, que nous avons lorsque nous recevons Christ. Et nous allons découvrir ces richesses et ces bénédictions dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. Épître de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 1er, nous découvrons là des richesses absolument extraordinaires. Quelqu'un a dit que l'Épître aux Éphésiens, c'était le mont Everest de la révélation de Dieu. C'est le sommet. Lorsque nous lisons l'Épître aux Éphésiens, nous sommes sur le sommet de la révélation divine. Paul reçoit des révélations extraordinaires. Il n'y a pas plus élevé que ce qui est donné ici. C'est pourquoi il est important d'en avoir une compréhension spirituelle. Et lisons déjà au chapitre 1er, à partir du verset 3. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Voyez-vous, il y en a toutes sortes de bénédictions. Nous allons en prendre 7 ce matin, mais il y en a toutes sortes. En lui, donc en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et au verset 15 encore, 16 et 17, nous pouvons lire « C'est pourquoi, aussi, ayant entendu parler de votre foi, au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et voici ce qu'il demande, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. » Ce sont des versets atomiques, ça. Ce sont des versets d'une puissance spirituelle atomique. C'est du concentré spirituel. Vous avez remarqué, là ? Le verset 19, c'est le verset atomique spirituel de toute la Bible. Quand il est dit « Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance manifestant avec efficacité par la vertu de sa force ?» Des versets comme cela, c'est absolument extraordinaire. Amen. Et devant cette grandeur, cette richesse, l'apôtre dit « Je prie pour vous afin que Dieu vous ouvre l'esprit, illumine les yeux de votre cœur. » Pour que vous ayez un esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance concernant tout ce qui vous appartient. Nous sommes riches spirituellement. Et si nous ne comprenons pas cela, nous allons vivre comme des misérables. Comme des misérables, alors que Dieu a tout prévu, Dieu a tout pourvu pour que nous ayons une vie spirituelle qui le glorifie totalement. Amen. C'est pourquoi il est très important, lorsque nous lisons les Écritures, de toujours demander au Seigneur, « Seigneur, illumine mon esprit. Donne-moi, comme l'apôtre le dit ici, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, afin que je sache quel est l'héritage que tu réserves aux saints. » Ceci est important. De toujours demander au Seigneur cet esprit de sagesse et de révélation. Et lorsque nous découvrons les richesses que nous avons en Christ, mes amis, notre vie spirituelle changera complètement. Alléluia! Quelles sont ces bénédictions? Je vais vous les donner brièvement. Vous pourrez les méditer à la maison, si vous voulez. Mais elles sont très importantes. Très importantes. C'est pourquoi l'apôtre disait, « Je veux que vous compreniez cela, que vous discerniez quelle est cette richesse. » La première bénédiction que nous possédons en Christ, nous l'avons donc au verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. » Donc la première bénédiction est celle-ci. Nous sommes bénis en Christ. Nous sommes bénis en Christ. Et l'apôtre a compris cela à un tel point qu'il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. » Il y a un cri de louange qui monte vers lui, vers le Seigneur. Gloire à Dieu! Béni, il bénit Dieu, pourquoi? Parce qu'il a réalisé l'immense bénédiction dont il est l'objet lui-même. Amen. Et nous devons réaliser cela. Mes amis, lorsque nous réalisons que nous sommes bénis, alors, nous bénirons Dieu, nous le bénirons, nous le louerons pour ses grâces et bénédictions sans nombre. Même si nous ne saisissons pas tous, pas tout, nous devons réaliser que nous sommes bénis. Et il est bon, important de confesser, Seigneur, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Et non pas continuellement dire, oh, « Seigneur, moi, mon frère est béni, ma sœur est bénie, mais moi, je n'ai rien du tout. » Ou « Personne n'est béni. » Il y en a qui vont juste là. « On n'a rien du tout. On n'a rien. » Alors, on pleurniche continuellement. Quelle grave erreur! Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est une confession importante, parce que c'est ce que vous êtes aux yeux de Dieu. Vous êtes bénis. Alléluia! Si je crois cela, comment je vais réagir? Ma première réaction sera, béni sois-tu, alléluia, gloire à toi Seigneur, parce que je suis béni en Christ je suis béni, à cause de lui je suis béni, à cause de lui. Dans tous ces versets que nous lisons, ces bénédictions sont toujours en Christ, ce n'est jamais à cause de nous, mais à cause de lui, amen, alléluia. Et il est très important de réaliser cela, que si nous sommes bénis, ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de lui. Alléluia! C'est pourquoi nous ne devons pas toujours trop nous écouter, regarder aux circonstances, regarder aussi à nos expériences, où on voit peut-être des choses qui sont faibles, tristes peut-être. Et puis alors, nous pouvons penser que, ah ben alors, tout est misérable autour de moi, donc je ne suis pas béni. C'est une erreur. Cette bénédiction n'est pas en toi, mais elle est en Christ. Alléluia. En Christ, tu es béni. À cause de Christ et pour la gloire de Christ, tu es béni. Amen. Alors la réaction première est celle-ci. Béni soit Dieu. Il y a des chrétiens qui sont toujours en train de dire, bénis-moi Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Ils sont en retard. Ils sont en retard de 2000 ans. Ils ont 2000 ans de retard dans leur prière. Bénis-moi, bénis-moi. Mais tu as déjà été béni il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, tu as été béni. Amen. Alors si on comprend qu'on a été béni, il y a cette double bénédiction. J'ai été béni, je bénis Christ maintenant. Je le bénis. Alléluia. Alléluia. Je le bénis de tout mon cœur. À cause de Christ, pour sa gloire. Je suis béni. Ah oui, mais moi, je ne vois rien du... En Christ, tu es béni. Commence déjà à te réjouir par la foi. Bénis le Seigneur de ce que tu es béni. Et tu verras que le Saint-Esprit commencera
à te révéler quelles sont les bénédictions qui sont à toi en Christ. Amen. Mais le Saint-Esprit ne pourra pas vraiment agir si tu n'es pas dans la foi. Si tu es influencé par tes circonstances, par tes sentiments ou par les hommes, le Saint-Esprit ne peut pas agir comme il le voudrait. Ces bénédictions sont en Christ par la foi. Donc par la foi, je le loue, je le bénis. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit commence à agir en moi et me révèle les bénédictions qui sont en Christ. Amen. Alors, première bénédiction, nous sommes bénis en Christ. Alléluia. Même si tu ne vois rien, même si tu ne sens rien, tu es béni. Amen. Vous savez, si chaque jour vous dites au Seigneur, « Seigneur, je suis béni en toi », au lieu de dire, « Seigneur, moi, les bénédictions, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai l'impression que tu as des préférences, là. L'autre sœur est bénie, l'autre frère est béni, mais moi, il n'y a pas grand-chose. » Vous croyez que ça va marcher si on est comme cela? Chaque jour, bénissez le Seigneur de ce que vous êtes béni. Et comme il a été dit au début, l'onction du Saint-Esprit n'est pas seulement pour le prédicateur. Les bénédictions ne sont pas seulement pour les prédicateurs. Ces bénédictions sont pour chaque enfant de Dieu. Alléluia! Les bénédictions et l'onction est pour vous aussi. On a des dons différents, mais l'onction sera la même, sera là. C'est l'onction du Saint-Esprit qui se manifeste différemment selon les dons, les ministères, les capacités que Dieu nous donne. Mais cette onction est là, c'est l'onction du Saint-Esprit, elle est la même pour tous. Alléluia! Que personne ne s'exclue de cela. Nous sommes bénis chaque jour à la maison. Merci Seigneur, je suis béni. Alléluia! Merci Seigneur. Au lieu de dire « bénis-moi », vous allez changer votre façon de prier, vous allez dire « je te bénis, Seigneur, de ce que je suis béni ». Et non pas « bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi », puis il n'y a rien du tout qui se passe. Cette prière a du retard, très, beaucoup de retard. Alors, merci Seigneur, je suis béni en Christ. Amen, en Christ, à cause de Christ et pour la gloire de Christ. Deuxième bénédiction, nous sommes saints et irrépréhensibles en Christ. Au verset 4. C'est un verset extraordinaire aussi. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alors regardez-moi ça, ce passage est extraordinaire. Alors deuxième bénédiction, nous sommes saints et irrépréhensibles devant Dieu, en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a beaucoup d'incompréhension au sujet de ce mot « saint », beaucoup de déviation. La Bible dit que tous les enfants de Dieu, tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, sont saints. Le mot « saint » veut dire être différent des autres, être séparé pour Dieu, être consacré à Dieu. Maintenant que nous appartenons à Christ, nous sommes saints. Cela veut dire que nous devons être différents dans ce monde. Il doit y avoir une différence entre un chrétien et quelqu'un qui n'est pas chrétien. Nous sommes des séparés pour Dieu. Le mot saint veut dire séparé, différent et consacré. Nous sommes des consacrés à l'Éternel. Alléluia! Ce n'est pas seulement le prédicateur qui est consacré. Oh, je reviens encore sur cette pensée-là. Beaucoup de chrétiens pensent, ah oui, ben lui, il est payé pour ça. Il est payé pour ça. Il a fait des études pour ça. Lui, il doit prier. Lui, il doit jeûner. Lui, il doit louer le Seigneur. Il est payé pour ça. Il a le temps. Il est payé pour ça. Lui, il est consacré pour ça. Et toi, tu es consacré pour quoi? À critiquer? À faire le petit juge, là. Tu es un saint devant Dieu. Tu es aussi consacré. Tu dois être différent. Tu es mis à part devant Dieu. Il n'y a point de différence. Il y a des ministères différents. Mais devant Dieu, il n'y a pas cette séparation entre le clergé et les laïcs. Ça, c'est une invention humaine. qui a mis une séparation entre les chrétiens. Et qui fait que, voilà, lui, il a besoin d'être consacré. Et encore, vous savez, quand le pasteur n'est pas assez consacré, on lui fait des remarques. Il y en a même qui ont jusqu'à... Combien de jours t'as jeûné, toi, cette semaine? C'était combien? Un jour? C'était pas assez, hein, tu devais jeûner 2 jours. Parce que j'ai beaucoup de problèmes. Il faut que tu jeûnes un peu plus que ça. Il faut un peu plus que ça! Ah oui? Ah ben, qu'est-ce que tu veux? C'est ton métier! Voyez-vous, quand on ne comprend pas qui nous sommes nous-mêmes, nous arrivons à toutes ces déformations. Tu es saint. Cela veut dire que tu es mis à part pour Dieu maintenant. Le sang de Jésus t'a purifié. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu es séparé pour Dieu. Tu es consacré à Dieu. Et si tu es consacré à Dieu, Dieu a un travail pour toi. Dieu a un ministère pour toi. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Mais tout le monde est appelé à avoir une responsabilité, tout le monde. Un saint, c'est quelqu'un qui est consacré. Malheureusement, dans certaines églises, il y en a qui ont le ministère de chauffer les bancs de l'église. C'est leur seul ministère. Ils viennent pour chauffer les bancs. Voilà. C'est tout, c'est mon ministère. Je viens chauffer les bancs. C'est l'hiver maintenant, ça fera du bien. Non, mes amis, Dieu a beaucoup plus que cela. Tu es saint. Tu es séparé pour Dieu. Et tu es consacré à Dieu. Et tu dois être différent. Nous devons être différents. Amen. Dieu a un travail pour toi. Un travail merveilleux. Sois humble. Dis, Seigneur, me voici. Que veux-tu que je fasse? Avez-vous remarqué Paul, sa première prière était celle-ci lorsqu'il s'est converti. Il a posé une question, qui es-tu? Et ensuite, à la réponse, il a dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Me voici. Je suis à toi. Je me consacre à toi. Utilise-moi pour ta gloire. Amen. Le chrétien qui vient, qui est assis, qui va, qui retourne chez lui, et puis alléluia, après on ne voit plus rien du tout pour le Seigneur, aucune consécration, aucune responsabilité, ça n'existe pas. Ce n'est pas un chrétien selon la parole. Ça n'existe pas, c'est inconnu. C'est une invention au fil des siècles. Vous êtes saints et irrépréhensibles, séparés pour Dieu, consacrés à Dieu. Pour une tâche précise. Alléluia. Et irrépréhensible. Le mot irrépréhensible veut dire ici sans reproche, sans tâche. En Christ, Dieu nous accepte. Il y a deux pensées dans ce mot irrépréhensible. Le mot grec ici veut dire, c'est le mot qui était utilisé pour offrir des sacrifices. Et quand on offrait des sacrifices, vous le savez que sacrifice devait être sans défaut. Sans défaut. Et c'est le mot qui est employé ici. Donc en Christ, lorsque Christ nous a sauvés, son sang nous a lavés et il nous regarde absolument sans aucun reproche, sans aucune tâche. Alléluia! Nous sommes irrépréhensibles. Cela veut dire qu'il n'y a plus de reproches à nous faire. Les reproches qui étaient sur nous sont tombés sur Jésus-Christ. Alléluia! Mais à toute vérité, il y a toujours deux aspects. Il y a le côté divin et le côté humain de toute vérité. À ce côté divin où Christ s'est donné à moi, et par son sacrifice, désormais Dieu me regarde comme si je n'avais jamais péché, comme si j'avais toujours été innocent. Alléluia! Tu es irrépréhensible. Cela ne veut pas dire que tu es parfait. Mais Dieu te déclare irrépréhensible à cause de Christ, en Christ. À cause du sacrifice parfait de Jésus, tu es parfaitement acceptable aux yeux de Dieu. Amen. Nous n'avons plus à baisser la tête. Approchez-vous avec assurance près du trône de la grâce pour être secouru dans tous vos besoins. Avec assurance. Avec assurance. C'est comme si nous disions, maintenant tu es mon enfant. Viens, viens, approche-toi. Viens, viens, je suis ton père céleste. Tu es mon enfant. Viens. Comme pour dire, viens, n'aie pas honte. En Christ, tu es accepté. Alléluia. Mais il y a une deuxième pensée là-dedans, dans ce passage.
c'est que ce n'est pas parce que, aux yeux de Dieu, nous sommes irrépréhensibles et sans reproche à cause du sacrifice de Jésus que nous pouvons faire ce que nous voulons, vous êtes d'accord avec moi? Et que nous devons nous offrons à Dieu n'importe quoi, notre vie, hein, Romains 12, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au don parfait, total de Jésus, mes amis, il y a une réponse de notre part. Il y a ce don de nous-mêmes. Et comme dans l'Ancien Testament, on n'acceptait pas d'offrande avec des défauts et des tâches. Personne, aucun Israélite ne pouvait amener un sacrifice qui avait des défauts. S'il avait une brebis qui avait une belle brebis avec un œil que... C'était inacceptable. Il valait mieux apporter un petit sacrifice que d'apporter un gros sacrifice avec un défaut. Et c'est ce que Dieu nous demande maintenant ici. C'est que maintenant que nous sommes acceptés en Christ, alors nous devons nous donner entièrement au Seigneur et le servir de tout notre cœur. Amen. Ce sont les demi-mesures qui déshonorent Dieu. C'est un cœur qui n'est pas entier à l'Éternel. C'est la routine. Ce sont les habitudes, tout cela. Ce sont des choses que Dieu ne peut pas accepter. Cette tiédeur, voyez-vous, tout ça, nous devons bannir tout cela. Nous devons toujours nous approcher de lui. Et comme un feu qui doit brûler en nous, un amour ardent, complet, total pour lui. Alléluia. C'est Finet qui disait, un chrétien devrait se reconsacrer tous les 15 jours au Seigneur. Se reconsacrer tous les 15 jours. Et vous savez que c'est avec Finet qu'il y a eu le plus de résultats, les résultats les plus durables dans les réveils. Parce que Finet allait au fond des choses. Et ce que Dieu veut de nous, c'est que justement, continuellement, lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous montre quelque chose qui ne va pas, que nous puissions toujours nous reconsacrer à lui. Amen. Tu t'es reconsacré peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans, ou il y a peut-être un mois. Tu t'es reconsacré sur ce que Dieu t'a montré à ce moment-là. C'est bien. Mais si Dieu t'a parlé ce matin, est-ce que tu t'es reconsacré? C'est ce que Dieu attend de nous. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Nous nous endurcissons, n'est-ce pas vrai? Nous nous endurcissons. Quand certains disent, moi j'entends jamais la voix de Dieu, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Nous entendons la voix de Dieu, mais nous faisons la sourde oreille. Ou nous entendons que ce qui nous intéresse. Nous entendons que ce qui peut nous faire du bien. Mais là où il faut changer, il n'y a plus rien du tout. Mais c'est très grave. C'est que si nous adoptons une telle pensée petit à petit, notre esprit s'endurcit, notre cœur s'endurcit, et nous n'entendons plus la voix de Dieu. C'est pourquoi continuellement, nous devons offrir au Seigneur un être entièrement livré. Amen. Pas de demi-mesure. Pas de défaut, mais entièrement consacré au Seigneur. Amen. Nous sommes bénis, nous sommes saints et irrépréhensibles. Que le nom du Seigneur soit béni. Troisième bénédiction maintenant. Nous sommes acceptés en Christ. Nous sommes acceptés. Au verset 6, il y a là un verset extraordinaire. Et au verset 6, il est dit « Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, au verset 7. La grâce donc qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Dans le texte original, c'est bien, c'est plus clair. Ici, on n'arrive pas à discerner la pensée, mais il est dit ici, en somme, que nous sommes acceptés en Christ. Acceptés. Et ce mot accepté est très riche ici, dans le texte original, très riche. Le mot accepté veut dire, nous sommes les bienvenus dans la famille de Dieu. Nous sommes introduits dans la famille de Dieu. Nous sommes acceptés, cela veut dire que Dieu nous fait une faveur. Nous sommes favorisés. Dieu nous a fait une faveur en Christ de nous introduire dans sa famille. Ensuite, nous sommes enrichis en Christ. Enrichis. Accepter, ça veut dire être enrichi. Et ensuite, cela veut dire aussi être honoré en Christ. En Christ, nous sommes honorés. Amen. Extraordinaire. Être accepté en Christ, cela veut dire être honoré. Être aussi, cela veut dire être accepté gratuitement. Nous n'avons rien fait, il a tout fait. Amen. Et une dernière pensée, cela veut dire nous sommes aimés du même amour que le Père porte à son Fils bien-aimé. Alléluia. Voilà une vérité qui devrait nous faire sauter au plafond. Nous sommes aimés du même amour que le Père témoigne à son Fils. Vous dites, mais c'est extraordinaire, est-ce possible? Mais c'est cela. Alors vous savez, quand certains ont des problèmes d'acceptation de soi, aujourd'hui on entend beaucoup parler ces termes un peu psychologiques ou psychiatriques, le rejet de soi, les gens se sentent rejetés et tout. Mais là, la réponse est ici, en Christ. Amen. Quand nous comprenons que nous sommes aimés du même amour que le Père témoigne à son Fils, alors, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Alléluia. Nous sommes acceptés. Nous sommes honorés. Tu l'es. Tu es aimé. Du même amour que le Père témoigne à son Fils. Merci Seigneur. Je suis honoré. Si nous saisissons tout simplement ces choses par la foi, mes amis, que de problèmes, de complexes disparaîtraient. Ah oui, mais moi, dans ma famille, on m'a rejeté. Alors, on pense qu'on doit accepter, on doit avoir ce fardeau-là toute sa vie. C'est une erreur. Un tel langage n'existe pas dans la Bible. Mais ce langage commence à pénétrer dans certains milieux, même évangéliques. À la croix, tout a changé. Si notre Père terrestre ne nous a pas donné ce qu'il fallait, ou notre Mère terrestre, nous avons un nouveau Père céleste. Alléluia. Nous avons une nouvelle famille, avec un nouveau Père. Nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans cette nouvelle création, cette nouvelle famille, tu es aimé, tu es honoré, Dieu te fait des faveurs, c'est une faveur pour toi, pour moi. De croire en Jésus. Amen. C'est une faveur. Tu es favorisé. Tu es honoré. Tu es enrichi. Gloire au Seigneur. Nous sommes aimés. Tu es aimé. Ah oui, mais ils me font la tête. Il n'y a pas de tête pour la tête. Tu es aimé. Mais on m'a rejeté. Mais en Christ, tu es aimé. Tu n'es plus rejeté. Alléluia. Et c'est là qu'il faut en rester à ces vérités bibliques. Amen. De l'amour de Jésus, de la puissance de la croix, de la réalité de la croix. Sinon, nous sommes perdus. Sinon, si nous nous regardons à nous-mêmes, si nous sentons essayer de tâter un peu nos sentiments, on ne s'en sort plus. Tu es béni. Tu es saint et irrépréhensible. Tu es accepté en Christ. Alléluia. Il n'y a plus qu'à dire merci Seigneur. Et c'est une faveur, c'est une grâce. C'est un cadeau. C'est un amour que tu ne mérites pas, que tu dois tout simplement accepter. Mais alors, beaucoup de gens disent, alors après un tel message, alors qu'est-ce que je dois faire pour être accepté? Ben voilà, le problème. On veut toujours faire quelque chose. Tu n'as rien à faire, tu es déjà accepté en Christ. Si tu as accepté Christ, tu es accepté en Christ. Tu n'as plus rien à faire. Alléluia, tu es déjà accepté. Amen. Mais il n'y a vraiment rien à faire. Est-ce que je ne peux pas faire un petit peu quelque chose? Est-ce qu'il ne faut pas que je... Non, c'est fait. C'est lui qui a tout fait. Nous sommes acceptés en Christ. Non pas en nous-mêmes, mais en Christ. C'est une réalité glorieuse. Alors tous ces complexes d'infériorité, de culpabilité, d'indignité, de rejet, tout cela disparaît à la croix devant l'amour extraordinaire que Dieu a eu pour nous. En nous donnant son Fils bien-aimé. Alléluia! Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est un amour qui se manifeste même pour le pire de ses ennemis. Dieu nous dit, lorsque tu étais mon ennemi, je t'ai aimé. Je vais me donner ma vie pour toi. Alors quand on comprend cela, qu'est-ce qu'on peut lui dire? C'est tout simplement, eh ben, si tu m'as aimé lorsque j'étais ton ennemi, c'est que je ne mérite rien du tout. Je n'ai rien fait pour mériter cet amour. Oui, oui, notre Père Céleste dit oui, exactement. Et c'est cela que tu dois comprendre. Tu n'as rien fait pour mériter cet amour et tu ne pourras jamais rien faire. Quand nous lisons Éphésiens, nous voyons justement la richesse de sa grâce, que Dieu nous a choisis, nous a bénis. Bon, tous ces passages révèlent la grandeur de l'œuvre de Jésus-Christ, de son amour. Alléluia! Et tout cela, c'est par grâce. Nous ne le méritons pas. Nous n'avons qu'à dire merci. Alléluia! Nous sommes acceptés. Alors, n'acceptez jamais des pensées où vous croyez que vous n'êtes pas acceptés. Jamais n'acceptez ces pensées. Quatrième bénédiction. Nous avons la rédemption par son sang. Au verset 7, une autre bénédiction. Qu'est-ce qu'il est dit? Il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Voilà, encore une vérité, une bénédiction extraordinaire. En lui, nous avons la rédemption. Donc, nous avons la rédemption par son sang. Que veut dire le mot rédemption? Le mot rédemption veut dire délivrer. Délivrer de nos péchés et délivrer de la main du diable. Et troisièmement, il veut dire être la propriété de Dieu. Quand Dieu nous dit « tu es racheté », cela veut dire que tu es délivré de ton péché, de la main de Satan, et maintenant tu es la propriété de Dieu. Alléluia! Alors que faut-il faire lorsque... N'est-ce pas une bénédiction extraordinaire, ça? Il y en a encore combien qui essayent de se dépêtrer des liens du diable, soi-disant. Ils ne s'en sortiront jamais. C'est fait il y a 2000 ans. Si tu t'es repenti de tes péchés, de tout ton cœur, si tu as détruit toutes les œuvres du diable dans ta vie, tu es racheté. Tu es délivré du péché et de la main de Satan. Et tu appartiens à Christ. Quelle bénédiction extraordinaire! Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8:1. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Rendez grâce au Père de ce qu'il vous a délivré de la puissance des ténèbres, et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. C'est au passé, c'est fait. Alléluia! C'est une bénédiction, tu es libre. Ah oui, mais je sens ceci, je sens les circonstances. Tu es ce que la Bible dit que tu es. La vérité n'est pas dans les circonstances, la vérité n'est pas en toi, la vérité n'est pas dans les sentiments, la vérité est en Christ. Alléluia! Mes amis, voilà les bénédictions. Vous vous rendez compte? Et il y en a qui passent toute leur vie à essayer d'être délivrés du diable. Alors que ça s'est fait il y a 2000 ans. Alors vous pensez bien qu'on n'en sort jamais. Voyez-vous, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Je prie pour que Dieu vous ouvre les yeux, que vous sachiez qui vous êtes. » Aussi bien concernant le péché que concernant l'oppression du diable. La croix a résolu ce double problème. Amen. À la croix, il a payé notre dette. Le péché a été définitivement vaincu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne pouvons rien faire d'autre que pour être pardonnés de nos péchés que de croire en son sacrifice parfait, n'est-ce pas vrai? Et si nous voulons ajouter quelque chose à cela, jamais nous serons libérés de la culpabilité du péché. Cette culpabilité disparaît lorsque nous mettons toute notre confiance dans le seul sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia! Et lorsque nous nous repentons sincèrement de tout péché. Mais deuxièmement, à la croix, il y a eu aussi la tête du serpent qui a été brisée. L'ennemi a été vaincu là. Non seulement je suis libéré du péché, mais je suis délivré de la main du diable. Il n'a plus de pouvoir sur moi. Parce que le sang de Jésus a purifié mon péché. Et là où le péché est ôté, le diable n'a plus de pouvoir. Gloire au Seigneur. Nous avons la rédemption par son sang. Nous avons. Merci Seigneur. Alors que faut-il faire? Il faut constamment remercier le Seigneur pour ce pardon extraordinaire et pour la délivrance de la main de l'ennemi. et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Amen. Lorsque il nous a délivrés, ce n'est pas pour continuer à vivre comme nous voulons, mais c'est pour vivre comme il le veut. Nous avons quitté, abandonné notre ancien propriétaire pour appartenir à un nouveau propriétaire. Alléluia! Parfois, vous voyez des banderoles, changement de propriétaire. Ça, c'est une bonne image de la conversion, du changement de vie. Tout ce qui était de l'ancien disparaît complètement. Vous êtes d'accord avec moi? Tout, vous rentrez là-dedans, vous arrivez à peine à entrer là, tout est balayé. L'ancien propriétaire avec ses désirs et tout cela, loin. Le nouveau, il fait toutes choses nouvelles. Et en Christ, c'est la même chose. Oh, gloire à Dieu. Nous lui appartenons pour faire ce qu'il veut et non ce que nous voulons. Une cinquième bénédiction, nous avons l'espérance d'être ensemble pour l'éternité. Voilà une bénédiction extraordinaire. Au verset 10, qu'est-ce qu'il est dit? Au verset 10, il est dit, lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, une autre bénédiction, nous avons l'espérance d'être ensemble pour l'éternité avec le Seigneur. Amen. Ça, c'est une bénédiction extraordinaire. Et nous devons nous en rappeler beaucoup plus souvent. Les chrétiens ne se réjouissent pas assez de l'espérance qui est devant eux. Avez-vous remarqué les chrétiens qui tournent autour de leurs problèmes? Jamais ils ne parlent de l'espérance qui est au ciel. Ils sont là toujours en train... On dirait qu'ils n'ont plus d'espérance. Plus tu parles de tes problèmes, plus tu perds ton espérance. On a l'impression qu'ils sont de ce monde et qu'ils n'ont pas d'espérance. Quelle tragédie! On est dans ce monde, c'est vrai. On a des combats comme tout le monde. Mais nous avons une espérance. Et c'est là-dessus que nous devons bâtir. Mes amis, ces choses terrestres vont disparaître. Un jour, les larmes sécheront. Un jour, la mort disparaîtra. Un jour, nous verrons le Seigneur. Alléluia! Qui d'entre vous ne se réjouit pas de voir le Seigneur? Alléluia! Nous sommes tous désireux de le revoir bientôt. Mais nous devons y penser souvent, mes amis. Et ce n'est pas une fuite. Il y en a qui voudraient nous faire croire que c'est un peu une fuite. Ce n'est pas une fuite, c'est notre glorieuse espérance. Amen! Alléluia! Nous avons une espérance, et lorsque nous sommes remplis de cette espérance, lorsque nous disons, bon, ben un jour, tout cela sera terminé, ces combats disparaîtront, ça vous donne du courage. Ça vous donne du courage, sinon vous vous empêtrez dans les difficultés. Et finalement, on parle comme les païens, et notre témoignage est complètement anéanti, n'est-ce pas vrai? Mais nous avons une espérance. Nous avons une espérance, tenons bon, tenons ferme. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu. Parce qu'il a vaincu, nous vaincrons aussi. Parce qu'il a tenu, nous tiendrons aussi. Tu tiendras. Parce que Jésus a tenu. Tu persévéreras. Parce que Jésus a persévéré. Mais réjouissons-nous, mes amis, du ciel, de l'espérance qui nous est réservée là-haut. Et parlons plus souvent du ciel, de la gloire de Dieu, que de ce monde en ténébré, où le jugement de Dieu viendra dessus. Pourquoi philosopher sur des choses qui vont se détruire? Pourquoi s'appesantir sur des choses qui n'ont plus de valeur aux yeux de Dieu? Nous avons une espérance glorieuse. Alléluia! C'est ce qui a tenu les premiers chrétiens, laissez-moi dire une chose. Les premiers chrétiens, quand vous lisez les épîtres, vous voyez constamment les premiers chrétiens attendre le retour du Seigneur. Amen. Et quand ils étaient dans les arènes, dans les souffrances, les difficultés, c'était le retour du Seigneur. C'était voir le Seigneur qui était leur plus grande consolation. C'est comme s'ils disaient au monde, vous pouvez faire de nous ce que vous voulez, mais nous, le meilleur est devant nous. Nous verrons notre Sauveur, vous pouvez nous tuer. Mais au moment où nous fermons les yeux sur cette terre, nous allons voir le roi des rois. Alléluia! C'est pourquoi les autres étaient décontenancés. Les païens, ils ne savaient plus quoi faire avec les chrétiens. Parce qu'ils avaient cette glorieuse espérance devant eux. Et mes amis, plus nous allons de l'avant, plus nous devons réjouir du ciel, de l'espérance qui nous attend. Amen! Et moins nous apesantir sur les choses de ce monde. si nous nous réjouissons en lui, si nous l'attendons, Dieu nous aidera, Dieu prendra soin de nous. Amen. Sixième bénédiction, nous sommes héritiers en Christ. Héritiers. Éphésiens, chapitre 1, verset 11, il est dit, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. » Héritiers. Alléluia. Nous avons donc un héritage. Nous avons un héritage. Romains 8 nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous avons un héritage. Tout ce qui appartient à Christ nous appartient aussi. Nous ne sommes pas rien du tout, mes amis. Nous avons un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se détruire. Alléluia! Un jour, nous partagerons sa gloire. Si nous partageons maintenant ses souffrances, son rejet, ses persécutions, mais nous partagerons un jour sa gloire. Alléluia! Nous sommes héritiers, mes amis. Tout ce qui appartient au Seigneur nous appartient. Si nous tenons ferme, jusqu'au bout, sans nous laisser arrêter par quoi que ce soit, Dieu n'abandonnera jamais son enfant qui compte sur lui, qui s'attend à lui, qui dépend de lui. Nous sommes héritiers. Disons-le, confessons-le, croyons-le. Ne disons pas, nous sommes orphelins, nous n'avons rien du tout. Non ! Tu n'es pas orphelin. Tu es un héritier. Tu as le Saint-Esprit. Tu as la parole de Dieu. Tu as l'espérance dans le ciel. Tu as la présence du Seigneur avec toi. Tu as tes frères et sœurs. Il y a des choses extraordinaires qui nous attendent. Amen. Alors que le monde va vers sa fin, nous, nous allons vers notre couronnement. Alléluia. Alléluia. Alors que le monde s'attend à voir disparaître tout son héritage, n'est-ce pas vrai ? Disparaître en fumée. Le nôtre, il y en a un qui nous est préparé là-bas et que personne ne pourra détruire. Alléluia ! Bâtissons pour les choses de l'éternité, mes amis. Bâtissons pour les choses de l'éternité. Bien souvent, nous perdons beaucoup de temps pour des futilités, pour rien du tout. Nous passons des heures et des heures pour rien du tout. Rien, ça ne mène à rien. Bâtissons pour l'éternité. Bâtis pour l'éternité. Dieu te récompensera. Il y aura un héritage là-haut qui t'attendra. Bâtissons pour l'éternité, mes amis. Le jugement vient sur ce monde. Soyons sages. Bâtissons sur le royaume de Dieu, sur la venue de son règne et sur notre espérance là-haut. Alléluia. Et pour terminer, septièmement, nous sommes, septième bénédiction, je termine maintenant, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Scellé en Christ. Verset 13, il est dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu l'évangile, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Vous savez, le sceau, l'apôtre utilise ici une image. Dans le temps, lorsque les Grecs et les Romains aussi faisait voyager des objets ou des choses comme cela, il mettait toujours un sceau. Il y avait le sceau royal, le sceau de l'empereur. Cela voulait dire que cette chose appartient à l'empereur. Et nous, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Cela veut dire que trois choses, être scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire, premièrement, que nous appartenons à Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Quand il y avait un sceau sur un objet, ou sur un animal, ou même sur une personne, cela voulait dire, cette personne, cette chose appartient à l'empereur, au roi. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Cela veut dire que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons au Seigneur. Alléluia. Mais est-ce que tu vis comme cela? Est-ce que nous vivons comme quelqu'un qui ne s'appartient plus à soi, mais qui appartient au Seigneur? Nous devons le prouver pratiquement. Seigneur, ce n'est pas ce que je veux qui compte, c'est ce que tu veux. Comment le prouver? En faisant constamment cette prière, que ta volonté soit faite et non la mienne. Amen. Que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est toi qui comptes, Seigneur. Ce n'est pas ma volonté. Et sa volonté est toujours bonne, agréable et parfaite. Alléluia. Faire sa volonté, sur le moment, peut être difficile, mais c'est celle qui portera le plus de fruits. Alléluia. c'est celle qui apportera une plénitude de satisfaction. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de résurrection sans croix. Si nous voulons la bénédiction de la résurrection, il faut accepter l'humiliation de la croix, le rejet de la croix, l'incompréhension de la croix, l'obéissance de la croix, mais qui sera suivie par la gloire de la résurrection. Alléluia! Tu es scellé du Saint-Esprit, ça veut dire que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Ça veut dire que désormais, tes yeux ne t'appartiennent pas. Tu ne peux pas regarder ce que tu vois, ce que tu veux. Tu dois entendre ce que tu ne peux pas entendre ce que tu veux. Tu dois entendre avec Jésus. Tu dois voir avec Jésus. Tu dois parler avec Jésus. Si tu regardes quelque chose que Jésus ne peut pas regarder, alors tu n'as pas le droit de regarder ça. Si tu entends quelque chose que Jésus ne peut pas entendre, tu ne dois pas entendre cela. Si tu vas à un endroit où Jésus ne peut pas aller, ce n'est plus ta place. C'est cela, avoir le sceau de Dieu. C'est ne plus faire ce qu'on veut, mais c'est faire ce que Dieu veut. On sera peut-être rejeté et critiqué, mais peu importe, Dieu se tiendra près de cette personne-là. Alléluia! Et le chrétien qui accepte de marcher sur ce chemin-là sera honoré par la présence de Dieu, du Père, de Jésus, des anges. Il sera honoré là-haut, même s'il est rejeté ici-bas. Être scellé, cela veut dire. Voilà. Et deuxièmement, veut dire sécurité, être en sécurité. Être scellé, ça veut dire être en sécurité. Dieu nous gardera. Amen. Dieu nous gardera. Dieu nous protégera. L'ennemi ne peut pas faire ce qu'il veut avec nous. Nous sommes protégés. Partout où l'objet allait, cet objet était protégé. Dieu nous protégera. Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et terminé, pour terminer, troisièmement, être scellé, cela voulait dire être assuré de sa destination. Quand le sceau était sur quelque chose, c'était sûr d'aller à la bonne destination. Et pour nous, c'est la même chose, mes amis. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous sommes sûrs d'aller au ciel. Alléluia! Sûrs, tous ceux qui se confient en lui marcheront ainsi dans la lumière, dans la vérité. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia! Merci Seigneur pour ta présence et pour ta bénédiction. Amen.